France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Il y a les chiffres, les données qui tombent chaque fois comme des couperets. En 2025, les faillites ont atteint un record. 70 000 entreprises n'ont pas survécu à l'année. Il y a leur nom également comme autant de symboles que l'on décroche. Mili, Brandt, Arc, Vancorex. Il y a la chute continue, constante aussi de la part de l'industrie dans le PIB depuis plusieurs décennies. Mais alors ce déclin industriel documenté, diagnostiqué, eh bien, à qui la faute ? À l'État qui ne protège pas, aux responsables politiques qui ne réagissent pas, aux banques qui ne soutiennent pas assez, aux grandes entreprises, aux privés qui n'investissent pas autant qu'ils le devraient, à l'Europe peut-être et à sa passivité relative. Deux invités ce soir pour nous éclairer. Anaïs Voigilis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée au sein du CEREJ de l'IAE de Poitiers et l'autrice de cet ouvrage intitulé « Pour une révolution industrielle ». C'est aux presses de la Cité, cela a paru en 2020. Et devrait arriver dans quelques instants car elle doit courir dans les travées de Radio France. Antoine Fouché, président du cabinet Quintet, spécialiste des questions sociales, ancien directeur de cabinet de la ministre du Travail de 2017 à 2020. Et il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Sortir du travail qui ne paye plus ». C'est aux éditions de l'Aube, ça a paru en 2024. Merci à vous deux donc d'être présents ce soir dans Questions du soir.
On nous a tenus à l'écart de tout ce qui se passait dans la coulisse. Parce que nous, on compte pas. Sauf qu'avec la région, on amenait 15 millions d'euros. Et bien, tout le monde s'assoit dessus. Il y en a un qui s'est bougé. C'est le ministre de l'Industrie, c'est Sébastien Martin. Sauf qu'on a tous été mis devant le fait accompli. D'abord, la direction de Brandt qui nous cache la vérité. La deuxième chose, les services centraux de l'État qui nous racontent des bobards que l'on a harcelés pour savoir ce qui se passait. Eux, ils ont la garantie de l'emploi, hein. Les banques, qu'on a également harcelées pour le tour de table, et qui sont toutes défilées, pour 4 millions d'euros, on met le salaire de quelques-uns et les 4 millions d'euros, on les a. Voilà, c'est ça la réalité. Et puis ensuite, les conneries de l'Europe, parce qu'il faut toujours en rajouter, qui interdit à la BPI de pouvoir aider des entreprises de plus de 250 salariés. Ça va être vendu aux enchères, pour quelques millions d'euros, et ça va être acheté par les Chinois. Et j'en ai ras-le-bol de ce pays à la con.
La colère qui s'entend du maire d'Orléans, Serge Grouard, face à la fermeture de l'usine Brandt. Lorsqu'on entend cet élu, Anaïs Voigilis, faut-il lui donner raison et comment ? À qui la faute, dans le fond ? Au service de l'État central, à la direction de l'entreprise, à l'Europe, aux banques ? À qui la faute ?
Eh ben, c'est en fait une vaste question qu'on se pose depuis que la France a commencé à se désindustrialiser, finalement depuis la fin des années 70. Qui est responsable de la désindustrialisation ? Et les coupables qui reviennent sont souvent les mêmes. Un coup l'État, un coup l'Union européenne, un coup les directions des entreprises. Et en fait, la désindustrialisation, je pense que c'est une histoire collective. Oui, des entreprises ont choisi de quitter le territoire français, notamment des grands donneurs d'ordre qu'on a en France, sont allés se localiser en Europe de l'Est, en Chine, pour profiter de structures de coûts moins importantes, de salaires moins élevés. Mais c'est aussi l'État qui n'a peut-être pas toujours fait le choix de soutenir l'industrie. Alors depuis 2020, on parle beaucoup d'industrie, de réindustrialisation. Mais finalement, on a aussi eu une période entre les années 80 et la fin des années 2000 où désindustrialiser, se concentrer sur une économie de service, aller éventuellement sur de l'industrie à haute valeur ajoutée, fortement technologique, était vu comme quelque chose de mature et de normal dans une économie comme la nôtre, une économie qu'on disait post-industrielle. Tout cela au profit de la Chine, qu'on voyait comme un pays site de production. Mais c'est aussi parfois peut-être la responsabilité des syndicats qui ne plaident pas toujours en faveur du maintien de l'industrie de manière indirecte, ou tout simplement le consommateur qui, pour des questions de pouvoir d'achat, peut choisir le fait d'acheter un produit qui vient de loin, produit dans de meilleures conditions sociales et environnementales, mais qui ont le mérite d'être moins cher. Donc finalement, il n'y a qu'une responsabilité collective. Chercher un coupable idéal n'a pas de sens. C'est un moment, une société qui a fait le choix de se défier de son industrie.
Et dans le même temps, Anaïs Voigilis, la faute à tout le monde, c'est généralement la faute à personne. Mais sur le cas précis de Brandt, justement, et je rappelle que 652 emplois ont été supprimés à la suite de la liquidation judiciaire de cette entreprise, symbole de l'électroménager français. Sur ce cas précis, est-ce que l'on peut trouver non pas un coupable, mais peut-être des acteurs économiques, politiques, institutionnels qui auraient pu agir autrement.
Alors, si on peut chercher un coupable, c'est le manque de demande pour des produits fabriqués en France. Et derrière la demande, ça peut être une commande publique qui n'a peut-être pas toujours joué son rôle, qui ne soutient pas toujours des produits fabriqués en France ou en Europe. En France, en se cachant derrière la réglementation européenne, mais aussi le consommateur qui fait le choix d'aller vers des produits qui ne sont pas fabriqués en France, mais qui sont fabriqués à l'étranger.
Pour il a des questions le consommateur, de coût. Il a le choix, il agit en fonction du prix d'abord et surtout, notamment en matière d'électroménager.
On a toujours le choix. Alors certaines personnes sont plus ou moins contraintes en termes de pouvoir d'achat. Tout le monde ne peut peut-être pas acheter des produits fabriqués en France, mais il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat qui leur permet de soutenir le tissu industriel français. Or, en matière de demande. Et on préfère juste un parallèle avec un cas récent. Il y a quelques jours, le commissaire européen à l'industrie a sorti une tribune dans 21 pays signée par plus de 1000 chefs d'entreprise appelant à la préférence européenne. Mais les entreprises françaises, elles-mêmes, ne jouent pas toujours le jeu du territoire français. Et tout le monde a une excuse pour pas le faire. Le pouvoir d'achat, les prix, le coût de l'énergie, tout ce que vous voulez. Mais on est dans une situation où, comme on ne joue pas collectif, eh bien on repousse toujours la responsabilité sur l'autre de notre inaction.
Antoine Fouché, merci d'être arrivé, même en retard, mais d'être arrivé tout de même. Vous reprenez votre souffle. Je vous pose la même question sur un cas comme celui de Brandt. Quelle responsabilité politique, économique, institutionnelle faut-il pointer ?
Je suis très largement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une responsabilité, mais il y a une forme de préférence collective pour la consommation plutôt que la production. Et donc après, chacun...
Faut nous dire ce que ça veut dire.
Ça veut dire que, par exemple, en matière de fiscalité, on est l'un des pays qui a le plus faible taux de TVA au total. C'est-à-dire qu'on a 4 taux, 2, 6, 5, 10, 20. Et en moyenne, notre taux de TVA, il est à 9,7. Ce qui fait qu'on est, de mémoire, à la 22e ou à la 23e place en taux de TVA. Par contre, on est le pays d'Europe qui taxe le plus... La production, les impôts de production en France, c'est 4% du PIB, c'est 1% en Allemagne.
Vous dites donc qu'on relativement, on taxe assez peu le consommateur et un peu trop les producteurs.
En fait,
comparativement.
Comparativement, mais deux choses par rapport à ça. C'est un, quand même, la fiscalité examinée sur plusieurs décennies, donc avec des gouvernements de gauche, de droite et du centre, quand c'est constamment un taux de TVA plus faible que la moyenne européenne, et constamment, des impôts de production, y compris sur les dernières années, des impôts de production plus élevés que la moyenne européenne, on peut se dire que la fiscalité, dans le temps, si elle ne bouge pas, c'est qu'elle reflète des préférences collectives.
Ça, c'est... On pourrait aussi vous opposer qu'au cours de ces dernières années, notamment depuis 2017, la fiscalité sur les producteurs, sur les entreprises en général a diminué et qu'augmenter la fiscalité et la TVA, en l'occurrence sur la consommation, serait injuste. Parce que c'est l'impôt le plus injuste.
Oui, alors il y a beaucoup de choses dans votre question. C'est vrai que la fiscalité sur les entreprises depuis 2017, elle a baissé, mais on était tellement en retard dans la compétition internationale que on n'a même pas rattrapé complètement notre retard. C'est-à-dire que si on voulait avoir, mais il n'y a pas que la fiscalité après, mais puisqu'on est là-dessus, si on voulait avoir la même fiscalité que les Allemands, par exemple, sur une valeur ajoutée industrielle égale, il faudrait encore, malgré tout ce qui a été fait depuis 2017, il faudrait encore baisser les impôts de production de 25 à 30 milliards d'euros en ordre de grandeur. Donc vous voyez que comme c'est un choix qu'on fait depuis 50 ans, plutôt la consommation que la production, même en rétablissant un peu les choses en 5-6 ans, on a tellement de retard accumulé sur plusieurs décennies que ça suffit pas. Et juste un mot sur la TVA, c'est vrai que la manière même dont vous posez la question montre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à poser le débat dans notre pays.
C'est-à-dire
que on dit la TVA, elle est payée par les consommateurs. Mais en fait, non. En fait, non. Parce que...
La TVA n'a pas d'impact sur le niveau des prix. Elle n'a pas d'impact sur ce que payent effectivement les consommateurs au moment de l'achat.
En partie, mais je prends un exemple concret. Si demain on dit que, comme nous sommes en retard, technologiquement, je pense qu'on va en parler, parce que c'est pas que les prix, que la fiscalité. On a pris du retard en fait sur tout en industrie. C'est pour ça qu'on s'est désindustrialisé. Et ce qui est arrivé en France risque de nous arriver en Europe si on change pas complètement d'orientation. Donc la TVA, je prends un exemple, on augmente, mettons, la TVA de 3 ou 4 points, donc c'est pas mal, sur les voitures produites en Chine. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous croyez vraiment que les Chinois ils vont répercuter les prix de 3 ou 4 %? Non, comme c'est ils seront mis en compétition avec d'autres producteurs, ils vont essayer d'absorber dans leur marge une partie de la hausse de TVA. De même que, comme nous, quand on a augmenté les cotisations sociales pendant plusieurs décennies, ça a été absorbé en partie dans les marges des entreprises et ça n'a pas été répercuté sur les prix à la consommation. Donc, pour le dire de façon très simple, quand on a une protection sociale qui est financée par 28 millions de personnes, comme nous, on l'a fait en France, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied au lieu de la faire financer par la TVA qui est payée par 168 millions de personnes, c'est-à-dire les 68 millions de Français et pas les 28 millions de travailleurs, plus les 100 millions de touristes. Et donc, et après je me tais par rapport à ça, on transfère, en fait la TVA sociale, ça consiste à transférer la pression de la mondialisation des travailleurs vers les entreprises étrangères. Et donc c'est tout sauf injuste. C'est non seulement intelligent, mais en plus très juste. Parce que moi je préfère que ce soit les entreprises chinoises qui aient la pression de la mondialisation plutôt que les travailleurs français.
Bon, je voudrais qu'on avance et qu'on garde le cap. Ça mériterait un débat entier, un débat passionnant par ailleurs sur la TVA en elle-même. Mais je vais vous faire entendre une voix, celle d'Arnaud Montebourg, qui décortique d'une manière sévère, hein, vous allez l'entendre, la responsabilité de l'État central.
Écoutez, on a perdu en 15 ans Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, Technip, un des leaders dans l'oil and gas, Lafarge, le ciment donné aux Suisses, Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Je vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat ? Il faut se réveiller. Et quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France ? C'est entre 10 et 15 millions.
Elle t'a pleuré, Anaïs Voigelis, cette liste. En tout cas, moi, elle me fait pleurer pratiquement. Comment est-ce qu'on explique qu'on ait perdu tous ces champions industriels, comme on a l'habitude de le dire ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a eu un mouvement de mondialisation qui a été qui s'accompagnait d'une très forte financiarisation de l'économie, avec des stratégies des entreprises, soit de céder des actifs non stratégiques, ce qui a pu conduire aussi à une concentration très forte de certaines activités de production à certains endroits du globe.
Bon, mais là, dans le même contexte, tout le monde n'a pas perdu ses champions partout dans le monde.
Mais parce qu'il y a aussi eu une stratégie la France, historiquement, c'est un pays de grands groupes, organisé autour de filières. C'est l'héritage Gaulot-Pompidou. Vous avez des filières dans l'aéronautique, l'automobile, le naval, avec des grands donneurs d'ordre. Ces grands donneurs d'ordre organisent les chaînes de sous-traitance et quand ils décident d'aller localiser des usines d'assemblage en dehors de France, ils emmènent en général toute leur chaîne de sous-traitance. En Allemagne, en Italie, il y a un tissu industriel différent. En Italie, il y a un ensemble de PME positionnés sur la chaîne de valeur, coopérant fortement. En Allemagne, vous avez des grands groupes et une structure du capital différente, une capacité à intégrer les pays d'Europe de l'Est dans les chaînes de valeur que nous n'avons pas réussi à faire en France. Mais la France, c'est un pays qui s'est vu comme une société post-industrielle. Tout le monde cite Serge Chourouque, qui dans les années fin des années 90, début des années 2000, disait une entreprise sans usine. Mais tous les cabinets de conseil, des politiques, etc.
Une société sans usine.
Serge Chourouque, l'ancien PDG d'Alcatel-Lucent, c'était l'entreprise sans usine. Et donc tout le monde a pensé que dans le développement de nos sociétés modernes, il était normal de se départir des activités de production et de se concentrer sur les tâches en amont et en aval réputées à plus forte valeur ajoutée. Et derrière ça, vous avez un État qui n'est pas stratège, qui n'a pas de vision de ce qu'il veut faire de son industrie au service de quoi il la met. L'industrie en Allemagne, elle est au service de la réunification de l'Allemagne. Donc ça a été un moteur très puissant du projet de société allemand. L'industrie n'a pas été dans le projet de société français. C'était une variable d'ajustement. Donc on a une désindustrialisation plus précoce et plus rapide que d'autres pays en Europe. On a eu une rupture culturelle avec l'industrie, puisque l'industrie n'était plus au cœur de notre projet de société. Et ce que disait Antoine Fouché, c'est une société où on soutient la consommation par le pouvoir d'achat, avec le soutien à la demande, une société de services, une société de services publics, mais l'industrie n'y a pas sa place. Donc maintenant, on pleure d'avoir vendu des fleurons industriels, mais en plus, on n'a pas les capitaux pour les financer. C'est-à-dire que on n'a pas de fonds souverains en France, on n'a pas de fonds d'investissement ou très peu de fonds d'investissement financés dans l'industrie. Et donc, à chaque fois que vous allez vendre un actif industriel, vous allez avoir des gens qui pleurent parce que ça ne va pas. Et c'est normal, ça a des conséquences sur l'emploi et sur notre souveraineté. Mais la réponse politique structurée, elle ne vient pas.
Comment est-ce qu'on explique, Antoine Fouché, encore une fois, que l'État ne soit pas stratège, que depuis 20 ans, 30 ans, et je me souviens aussi des discours politiques au mi-temps des années 2010 sur l'État stratège, on était incapable, semble-t-il, de dessiner une stratégie en matière de réindustrialisation, incapable de se situer entre l'Allemagne qui misait sur la compétitivité hors coût, donc sur la qualité des produits, et sur l'Espagne qui avait fait le choix un peu inverse de miser sur la compétitivité et coût, et donc de proposer des produits peut-être moins chers comparativement.
Mais je pense que les explications les principales viennent d'être données.
Mais donc c'est un problème culturel.
Mais j'irais même un peu plus loin. C'est à presque un problème identitaire. C'est-à-dire que post-Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a mis sa fierté nationale sur l'industrie. Et donc c'était une des manières acceptables d'être fier d'être allemand. C'était d'avoir une industrie puissante qui permettait de financer une élévation du niveau de vie et l'un des meilleurs standards de niveau de vie de tout l'Occident, donc du monde. Nous, on n'a jamais mis notre fierté nationale dans l'industrie. Il y a eu 20 ans de Gaulot-Pompidolis, je suis d'accord, dans lesquels, de toute façon, une grande puissance n'a pas de... On ne peut pas être une grande puissance sans avoir d'industrie. Donc, on a essayer de rattraper notre retard industriel. On y est en partie parvenu avec des choses qui ont mis la France à la pointe de l'industrie mondiale, le nucléaire, le TGV, le Concorde, etc. Mais comme vient de le dire Anaïs, c'était l'industrie au service d'un projet national qui était l'indépendance nationale. Et il me semble qu'on a laissé tomber l'indépendance, comme on a laissé tomber l'industrie. Aujourd'hui, il y a un chiffre de l'INSEE qui montre ça, c'est aujourd'hui seulement 38% des biens qui sont consommés en France sont produits en France. Donc ce qui veut dire que 62% de ce qu'on consomme, de ce qu'on achète, n'est plus produit en France. Donc on est complètement... De même qu'on a laissé tomber notre indépendance nationale, on a laissé tomber notre industrie, et ça va ensemble. Et me semble-t-il, c'est parce que on a jamais mis notre fierté, encore une fois, là-dedans. Et après, concrètement, ça se traduit comment? Je redonne l'exemple de la fiscalité. C'est-à-dire que à la fin, quand même, on peut charger les politiques. Mais aujourd'hui, un politique qui arrive en disant « Moi, j'ai une vraie stratégie de redressement industriel. Donc, vous savez quoi? On va faire 30 milliards de baisses d'impôts sur les entreprises industrielles. On va augmenter la TVA de 4 points sur tout ce qui est produit en dehors d'Europe. On va assouplir les normes pour qu'on ne mette pas 2 ans pour mettre en place, construire une nouvelle usine en France. On va mettre en place des fonds souverains via une retraite par capitalisation, ce que fait la Norvège par exemple, pour pouvoir financer l'industrie qui va permettre financer les emplois de demain de nos enfants.
Il n'y aurait pas grand risque d'être élu, c'est ce que vous dites.
Exactement. Donc à la fin, la responsabilité collective, au-delà des politiques qui ne sont qu'élus, c'est celle des Français, c'est nous collectivement depuis 50 ans, qui préférons le présent à l'avenir et la consommation à la production.
Mais vous les rencontrez parfois tous les deux, ces responsables politiques. Vous avez même, Antoine Fouché, travaillé pour des responsables politiques. Anaïs Voigilis, que vous disent-ils lorsque vous les rencontrez? Est-ce qu'ils ont... conscience de ces explications que vous donnez là, de ce problème culturel ou identitaire que vous exposez chacun?
Alors, j'ai sûrement moins d'expérience en la matière qu'Antoine. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur la nécessité de réindustrialiser. Je pense qu'il n'y a pas un politique qui n'a pas le mot industrie à la bouche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur quel type d'industrie, comment on réindustrialise, pourquoi, au service de quoi. Donc, l'absence de consensus fait que finalement on n'avance pas sur les sujets. Et moi, ce que je ressens, et qui est un avis finalement très personnel, qui n'est pas alimenté par un aspect académique, c'est qu'il y a fondamentalement un manque de courage. Parce que quand vous parlez de transition écologique, quand vous parlez de réindustrialisation, il y a des choix à faire et qui sont des choix politiques. Réindustrialiser aujourd'hui, c'est accepter le rapport de force avec la Chine. Vous avez un contexte de surcapacité de production mondiale. Donc, vous êtes obligé de dire que la France, et avec elle l'Europe, n'offre plus son marché comme un buffet gratuit. Donc, de fermer certains marchés parce qu'il y a des surcapacités de production mondiale, et donc il faut réguler le marché. Il faut exiger des transferts de technologies. ou des clauses de localisation de production. Il faut taxer.
Donc c'est un double courage que vous pointez là, un courage à l'égard des électeurs et un courage à l'égard de nos partenaires stratégiques à l'échelle internationale.
Et il faut accepter de taxer les produits qui ne plus fortement les produits qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales. Mais du coup, ça aura un impact à court terme en matière d'inflation. Donc les produits coûteront plus cher, donc un impact sur le pouvoir d'achat. Mais moi, je vais vous dire, il vaut mieux avoir un impact sur le pouvoir d'achat que ne plus avoir d'industrie en Europe à l'horizon 15 ans et de ne même pas avoir la capacité de financer du chômage et les amortisseurs sociaux.
Ça va coûter très cher, il faut quand même aussi le préciser et être lucide sur le diagnostic que vous exposez et dans le même temps lucide aussi sur les risques portés par l'industrialisation elle-même. Ça va coûter très cher, Antoine Fouché, aux consommateurs.
À court terme, oui, mais c'est un arbitrage court terme, long terme, en fait. Et c'est-à-dire que, on peut se dire, qu'est-ce qui explique? Parce que c'est pas complètement absurde, la désindustrialisation depuis plusieurs décennies. C'est que, à court terme, ça donne du pouvoir d'achat parce que oui, je prends des vêtements, par exemple, et si on est moins regardant sur les normes environnementales, sociales, qu'il y a une technologie de production de masse en Chine et que, les coûts de transport sont réduits parce qu'il y a des progrès du commerce, eh bien oui, on aura des vêtements d'à peu près aussi bonne qualité, moins cher. Ça, c'est le court terme. Mais qu'est-ce qui se passe dans le territoire et à la fin, l'ensemble des territoires qui s'agrègent, ça fait la France. Dans un territoire où vous avez une usine de vêtements, de jeans par exemple, qui ferme, dans cette usine-là, vous remplacez les jobs dans lesquels il y avait des gains de productivité chaque année qui fait que les salaires augmentaient chaque année par des jobs de tourisme, d'hôtellerie restauration, de pizzeria, de kebab, de gîtes, de parcs d'attractions, etc. Et au bout de 20 ans, à court terme, même ces gens-là, ils peuvent être gagnants parce qu'ils ont des jeans à 5 euros qui arrivent ou à 10 euros qui arrivent au lieu de jeans à 50 euros. Mais au bout de 20 ans, comme les salaires de ces jobs-là n'augmentent pas, le pouvoir d'achat n'augmente plus et donc nous, c'est la situation dans laquelle on est maintenant à force de s'être désindustrialisé, c'est que nous n'avons plus les ressources pour que les salaires augmentent comme ils augmentaient auparavant chaque année, puisqu'il n'y a que dans l'industrie, en fait, où c'est l'industrie qui fait les gains de productivité. Donc, les progressions salariales les plus importantes, ça, partout dans le monde. Donc, un pays qui est désindustrialisé, c'est structurellement un pays dans lequel le travail ne paye plus.
Et donc, là... Pourquoi a-t-on vendu pendant des années la société sans industrie?
Parce qu'à court terme, je pense qu'il y a une erreur...
De quoi rêvait-on?
On rêvait, ça pouvait être partagé droite-gauche, c'est-à-dire on pouvait rêver à droite d'avoir une société rentable qui serait débarrassée des syndicats qu'il y avait dans les usines, et on pouvait rêver à gauche d'une société de consommation facile, financée par la délocalisation, dans laquelle on travaillerait moins. Et donc en fait, les gouvernements qui alternent gauche-droite, il y a une forme de consensus là-dessus, parce que l'industrie, c'est la compétition internationale, et la compétition internationale, c'est... un effort massif d'éducation, de technologie et d'investissement. Donc, c'est à court terme. Encore une fois, à court terme, c'est pas la consommation. Et donc, faut travailler non pas pour soi, mais pour ses enfants. Et je pense que fondamentalement, à la fin, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, les pays asiatiques, et notamment la Chine, qui nous ont rattrapés et maintenant dépassés, ils ont une vue sur 20 ou 30 ans. Alors que nous, même sur un quinquennat, on a du mal à avoir une vue. Et... donc, c'est encore une fois, je pense, un arbitrage court terme, long terme. Et à force d'avoir privilégié le court terme, on a été rattrapé par le long terme sur lequel on est perdant. Et donc, maintenant, il faut réinverser les choses. C'est-à-dire, à long terme, on va être gagnant. Mais à court terme, il y a un effort.
Anaïs Voigelis, vous souhaitiez réagir?
Ouais, en fait, il y a des choses qu'on peut dire en complément. C'est que je pense que on a cru que les services et plus largement ce qu'on appelait l'économie de la connaissance allaient créer suffisamment de valeur pour compenser la destruction de valeur avec la désindustrialisation. Et c'est vrai dans certains territoires, notamment en Île-de-France, où globalement il y a des gagnants de la mondialisation. Et il y a aussi certains territoires qui se sont complètement paupérisés avec la désindustrialisation, avec des effets très forts. Quand on dit les emplois de tourisme ou de création dans la restauration, il y a certains territoires qui n'ont même pas assez d'attractivité pour avoir compensé encore aujourd'hui, 20 ou 30 ans après, les effets de la désindustrialisation. Et donc, ça amène des fractures territoriales très fortes qu'on retrouve aux États-Unis, un des moteurs de l'électorat de Trump, au Royaume-Uni, un des moteurs du Brexit. En concentrant la production dans quelques zones géographiques, on a réussi à avoir des économies d'échelle. C'est ça qui a alimenté temporairement le pouvoir d'achat. Mais on voit bien qu'on est arrivé au bout de cette logique, puisque les gens en France mettent la question du pouvoir d'achat comme préoccupation numéro une avant toutes les autres. Donc ça montre bien que ce modèle est pas satisfaisant. Les économies d'échelle, elles permettent un bas prix. Donc ce qui fait que la politique de réindustrialisation, elle doit interroger aussi comment on arrive par des économies d'échelle à l'échelle européenne à reproduire un modèle peut-être similaire en intégrant des questions environnementales. Et la dernière chose, ça nous oblige à avoir une cohérence dans notre politique. Parce que Antoine Fouché rappelait politique de long terme en Chine. La Chine n'a pas attendu d'avoir un scandale industriel pour s'intéresser aux véhicules électriques. Elle n'était pas leader dans le thermique, elle avait un problème environnemental, ça fait 20 ans qu'elle travaille sur le véhicule électrique. Nous, on a pris le véhicule électrique comme une politique industrielle à l'échelle européenne, après les scandales du Dieselgate, avec pas d'alignement des industriels, et résultat, après avoir dit fin de vente des véhicules thermiques en 2035, aujourd'hui on revient là-dessus. Mais enfin, il y a des industriels qui ont investi pour aller dans le véhicule thermique, donc pour passer pour des artistes de rue incompétents, et que le reste du monde se moque de nous, il y a quand même pas beaucoup mieux. Enfin, on a un exemple de clownerie.
Avec beaucoup de respect pour les artistes de rue, cependant.
Oui, oui, énormément.
Précisons-le. Antoine Fouché, je reprends un point soulevé par Anaïs Voigelis tout à l'heure. Elle expliquait qu'il n'y avait pas de consensus aujourd'hui au sein de l'État, parmi les responsables politiques, sur ce que devrait être l'industrie aujourd'hui. Est-ce que l'industrie souffre aujourd'hui même d'une image faussée? On voit encore, au fond de la campagne française, une industrie, une usine plutôt, qui pollue. Est-ce que l'industrie, ça ressemble encore à cela? Qu'est-ce que l'usine? Qu'est-ce que l'industrie aujourd'hui?
Non, l'industrie aujourd'hui, c'est une usine intégrée dans laquelle il y a beaucoup de logiciels, beaucoup d'automatisation, très propre, très sécurisé. Très propre et très sécurisé, avec toutes les, notamment en Europe, mais même en Chine. Ménégo disait à l'Assemblée nationale, moi, mon usine la plus décarbonée, c'est lui qui disait, mon usine la plus technologique et la plus décarbonée, elle est en Chine. À l'Assemblée nationale. Donc, nous, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, nous, surtout si on fait des transferts de technologie. Là où je ne sais pas s'il y a un consensus, effectivement, au sein de l'État, c'est non pas sur les bienfaits de l'industrie, parce que je pense que les ultra-libéraux des services, voyant les chiffres et les difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui...
C'est qui, pardon, les ultra-libéraux des services?
Longtemps, la politique du ministère de l'économie, elle a effectivement considéré, elle était dans le consensus majoritaire en France, en considérant que c'était pas grave de se désindustrialiser, et c'est pour ça qu'on a mis des dizaines de milliards d'euros chaque année sur les allègements de charges, bas salaires, qui favorisent les emplois dans la restauration au détriment des emplois dans l'industrie. Donc, voilà, c'est ça que j'appelle le consensus. Mais là où il y a un vrai débat qui me semble un peu inquiétant, c'est qu'il y a encore des gens, mais à la limite, pourquoi pas, de toute façon, le débat, c'est ça en démocratie, hein, mais qui considèrent que maintenant, on a pris tellement de retard que de toute façon, on n'y arrivera plus jamais. C'est-à-dire que, non, parce que
Pardonnez-moi, mais en vous écoutant, c'est ce que je me dis un peu également.
On cumule tout. Non, mais voilà pourquoi on peut se dire ça, mais je pense que c'est faux. Enfin, qu'à la fin, on peut quand même y arriver. Mais on peut se dire qu'on n'y arrivera plus parce que on est maintenant dans la situation d'un pays émergent avec des coûts de pays développés. C'est-à-dire qu'on a du retard technologiquement, éducativement, normativement, et en plus, on est plus cher.
Donc, normativement, c'est-à-dire sur les règles.
Sur les règles, c'est-à-dire on produit dans ce qui nous reste de produire, à produire, dans beaucoup de cas, on produit des choses moins bien et plus chères. Typiquement, les voitures électriques, les voitures chinoises, elles sont mieux et moins chères que ce qu'on produit aujourd'hui en Europe. Et donc, on peut se dire, et en plus, on a des coûts qui sont supérieurs, on a des normes au nom de choses tout à fait respectables, et notamment l'environnement, etc., qui sont plus contraignantes, et donc, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il y a une forme de fatalité, de défaitisme, de quelque chose même de suicidaire, une forme de pulsion de mort là-dedans, qui est inacceptable, et que même si c'est très difficile...
Pulsion de mort.
Il faut... Oui, parce que... Un pays qui se laisse coloniser industriellement et coloniser numériquement, c'est un pays qui, de toute façon, se dit « Écoutez, le destin de nos enfants, c'est pas si grave que ça. » Et donc, même si le pays dans lequel ils vivent sera un pays dépendant totalement économiquement, ça ne nous change pas à court terme nos choix et nos comportements.
Je me tourne vers vous alors, Anaïs Voigelis. Qu'est-ce que vous répondez aux pessimistes de mon genre, par exemple ?
Déjà, il faut pas être pessimiste, ou alors il faut être un optimiste réaliste et se dire que, en effet, changer les choses, revenir sur 30 ou 40 ans de choix politiques et économiques prend du temps, demande un effort de l'ensemble de la société et d'accepter qu'on arrive à aller tous dans le même sens.
Alors concrètement?
Concrètement, comment on fait? Eh ben, alors ça, c'était une très bonne question. C'est... Imaginons demain, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure. Imaginons demain. Alors moi, je préférerais être Ursula von der Leyen qu'Emmanuel Macron en termes de rôle, parce
c'est
que je pense
choix,
que plus de choses se passent si je dois choisir mon personnage pour jouer. Une première chose, c'est penser l'industrie comme un projet de société. C'est-à-dire que l'industrie, elle est au service de quelque chose qui la dépasse. Et donc, c'est un outil au service de cette industrie, enfin de ce projet-là.
La préférence européenne, par exemple.
La
alors, si vous êtes
chose,
Ursula von der Leyen,
c'est que je mettrais un mécanisme européen de sauvegarde industrielle.
Qu'est-ce que ça
alors,
veut dire?
C'est très pompeux. C'est pensé justement pour l'Europe. C'est on est dans un contexte de surcapacité de production. L'Europe doit cesser d'ouvrir son marché pour des questions de souveraineté, pour des questions environnementales. Donc potentiellement, dans les marchés à surcapacité de production, ce sont des clauses de sauvegarde temporaires. On interdit ou on réduit temporairement les importations. On met des clauses d'accès au marché européen, l'empreinte carbone, la traçabilité des aides publiques. Parce que les Chinois, ils ont une politique industrielle très claire. Il y a aussi beaucoup la Chine, parce que notre problème numéro un en termes de déficit commercial est de manière réaliste avec la Chine, mais on pourrait aussi étudier d'autres pays. Il n'y a pas de traçabilité en matière d'aide publique en Chine. Il ne s'agit pas donc de faire un protectionnisme très large comme le fait Donald Trump, mais d'avoir des mesures ciblées, chirurgicales. Il n'y a pas de transparence sur les aides publiques. Les produits ne rentrent pas sur le territoire européen parce que ça crée du dumping.
Antoine Fouché, vous pouvez choisir votre personnage aussi et les mesures qui suivent.
Je suis personnage joker, mais après les mesures, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire, il faut que, je dirais autrement, il faut qu'on se pense comme ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays émergent. On est en retard, et donc un pays émergent, si à un moment donné il ne veut pas disparaître de la compétition industrielle mondiale, il faut qu'il rattrape son retard technologique. Pour rattraper son retard technologique, il faut se fermer le temps, pas sur tout, mais sur les secteurs stratégiques, le temps de rattraper son retard. Donc ça veut dire préférence européenne, investissement public, et les produits étrangers ne peuvent rentrer que s'il y a transfert de technologie. C'est-à-dire, il faut faire ce que la Chine a fait il y a 30 ans, quand elle avait du retard. Maintenant, c'est nous qui sommes en retard. Donc, il faut faire la même chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucune fatalité, à condition d'avoir deux choses. C'est un, la volonté politique, et deux, une acceptation par la totalité de la société de privilégier le long terme sur le court terme. C'est-à-dire, encore une fois, j'y reviens, c'est-à-dire le niveau de vie et d'indépendance de nos enfants dans 20 ans. C'est ça qui est en jeu. Et si on ne se pense pas comme un pays émergent, c'est-à-dire on se ferme, on rattrape notre retard techno, et quand on a rattrapé, on rejoue la compétition internationale, mais là, on n'est plus en capacité de jouer la compétition internationale, on a trop de retard. Si on ne fait pas ça, je pense que là, oui, pour le coup, on a un vrai risque de désindustrialisation totale, pas qu'en France, mais en le reste de l'Europe. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne fera pas ça. Je pense que fondamentalement, on n'est pas suicidaire et on ne veut pas que nos enfants vivent moins bien que nous dans 20 ans. Donc, on va arriver, on va faire les efforts. Et il y a plein de signes qui montrent que c'est en train de bouger, même si c'est tout le début et c'est complètement insuffisant.
Merci d'être venu charger de cet optimisme, en tout cas tous les deux. Antoine Fouché, président du cabinet Quintet, spécialiste des questions sociales, ancien directeur de cabinet de la ministre du Travail de 2017 à 2020. Sortir du travail qui ne paie plus, c'est l'ouvrage que vous signez aux éditions de l'Aube. Anaïs, Voigilis, chercheuse associée au sein du CRS de l'IAE de Poitiers, et l'autrice, quant à vous, de cet ouvrage intitulé « Pour une révolution industrielle », c'est aux presses de la Cité. Merci également à celles et ceux qui ont fait et pensé cette émission. Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Mathias Meji. À suivre, après le journal, une autre question. Les transclasses sont-ils les alibis de la démocratie ?